Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Il y a des jours où certaines images de l'Écriture vous reviennent un petit peu en pleine figure. Et une des choses qui, ce matin, me revient en pleine figure, c'est à quel point des gens comme Moïse, comme David, pouvaient à un moment être découragés. On se souvient souvent de ces gens comme étant des super-héros de la foi. Et on se dit, si des personnes ont été choisies par Dieu pour faire ce qu'elles avaient à faire, c'est qu'elles devaient avoir une carrure, elles devaient avoir une trempe. Et pourtant, beaucoup de textes nous relatent que ces gens, il y a des moments où tout simplement, elles voulaient tout envoyer gicler. Tout envoyer balader. Le peuple d'Israël, il gonflait Moïse. Les prophètes de Baal, ils gonflaient Élie. Les pharisiens, les sadducéens, ils gonflaient Jésus. Et tous les matins, ils remontaient dans les collines et ils priaient. Il y a des moments où apporter la parole du Seigneur est plus une charge qu'un plaisir. Ce n'est pas tellement qu'il y a des choses difficiles à dire, mais il y a des moments où être un porte-parole est quelque chose qui n'est pas aisé, tout simplement parce que la parole de Dieu n'est pas notre parole, c'est sa parole. On n'est qu'un messager. Sa parole est tellement riche, tellement diverse, qu'il est parfois difficile de trouver son chemin et de bien comprendre ce qu'elle est en train de nous dire. Et puis par moments, préparer un message, il y a toute cette difficulté supplémentaire de se dire en quoi est-ce que la parole est une parole pour l'Église aujourd'hui. Et ma préoccupation ce matin, comme je pense à l'aide de plusieurs d'entre nous dans le conseil lorsque nous prêchons et tout, c'est en quoi est-ce que notre parole, si nous disons correctement ce que Dieu a dit dans l'Écriture, est une parole pour son peuple. Et je m'inclus dans ce peuple. Et souvent, je suis submergé par ce que me dit l'Écriture pour me dire, mais qu'est-ce que tu en fais ? Et ce n'est pas simplement de culpabiliser les gens et de dire « qu'est-ce que vous en faites ?» C'est tout simplement de se dire « comment est-ce que nous pouvons laisser notre vie s'ouvrir pour que cette parole rentre et nous transforme ?» Et nous avons beaucoup utilisé dernièrement cette image du peuple qui était là à entrer dans le territoire de Canaan, que le Seigneur avait décrit comme c'est un territoire où coule le lait et le miel. Alors vous, ça ne vous dit rien, le miel, vous n'aimez peut-être pas le lait, encore moins, tout le monde est allergique aujourd'hui. Mais pour le peuple d'Israël, un territoire où coulait le lait et le miel après avoir traîné pendant 40 ans dans le désert, il n'y avait rien de mieux. Il n'y avait rien de mieux. Et lorsque nous avons parlé de toutes ces promesses que le Seigneur nous fait dans son Écriture, nous sommes dans la même position que le peuple d'Israël à dire, est-ce que nous allons aller de l'avant et saisir ces promesses? Et si oui, comment? Ou alors, est-ce que nous allons nous laisser envahir par des préoccupations d'aujourd'hui en se disant, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, et donc les oignons d'Égypte valent mieux qu'une promesse de miel et de lait dans un territoire où il y a des géants et plein de bonhommes qui nous veulent du mal. Et moi, en ce moment, je veux dire, toutes ces prédications, toutes ces réflexions, tout ce que j'entends m'interpelle et me pose cette même question. Est-ce que tu vas prêter foi à la parole du Seigneur? Est-ce que tu vas prêter foi à ses promesses? Et est-ce que tu vas te mettre en marche et aller de l'avant et conquérir ce territoire que le Seigneur te promet? Et je vous avoue, la réponse n'est pas facile. La réponse n'est pas facile. Il y a des moments où on est fatigué. Il y a des moments où on n'y croit pas. Il y a des moments où on a écouté certaines personnes qui disent, tu sais, d'accord, du lait et du miel, mais enfin, il faut le chercher. Il y a plutôt des géants, il y a plutôt des gens qui nous veulent du mal. Et pourtant, le Seigneur est dit, je t'ai promis que je te donnerai ce territoire. Et moi, je marche devant toi. Et moi, je vais combattre avec toi. On y va. Tu as beau être le plus petit de tous les peuples, le plus insignifiant, le plus désordonné, le plus rebelle. Tu as traîné 400 ans en esclavage. Mais avec toi, je vais faire des exploits. Et j'aimerais ce matin que nous réfléchissions à un autre aspect de cette conquête du territoire. Un autre aspect qui est important pour nous, me semble-t-il, en tant que communauté. Je vous invite à lire le texte suivant, qui n'est pas tiré du livre de Josué, mais qui est tiré du livre des Nombres, au chapitre 32. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galaad étaient un lieu propre pour les troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent « Ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. » Ils ajoutèrent « Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fait point passer le Jourdain. » Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, « Vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici ? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne ? Ainsi firent vos pères quand je les envoyais de Kadès-Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Échol et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là. Voici, vous prenez la place de vos pères, comme des rejetons d'hommes pécheurs, pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert, et vous causerez la perte de tout ce peuple. » Ils s'approchèrent de Moïse et ils dirent, « Nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. » Puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné. Et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons déjà notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à l'Orient. Moïse leur dit, si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de sa face, et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël. Et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. » Alors juste avant d'entrer en Israël, il y a deux tribus qui disent, nous, pendant les 40 ans au désert, on a fait grandir nos troupeaux, puis on arrive ici juste avant le Jourdain et on trouve que le terrain, il est quand même vachement bien. Et nous, on voudrait rester là, on ne voudrait pas rentrer en Israël. Ah ! Grosse question pour Moïse. Alors ici, il y a beaucoup de débats entre Pierre et moi, par exemple, ou entre un certain nombre de commentateurs, pour se dire, est-ce que les deux tribus sont en fait des rebelles et des gens qui veulent rester simplement de ce côté-là parce qu'ils ne croient pas qu'il y a quelque chose de bon de l'autre côté et qui se disent, tu sais, en fait, cette aventure, on reste où on en est, on est bien où on en est. À vrai dire, je pense que l'Écriture ne nous permet pas de dire d'une façon ou d'une autre s'ils avaient bien fait ou mal fait. Parce que nulle part ailleurs, il nous est dit qu'ils ont été critiqués pour ce qu'ils avaient fait. Et même plus tard, Moïse va bénir ces deux tribus en leur disant « Vous avez un territoire absolument magnifique que le Seigneur vous a donné. » Et en fait, on se rendra compte que plus tard, le territoire d'Israël, ça ne sera pas simplement à l'ouest du Jourdain, mais va inclure aussi une grande partie à l'est du Jourdain et inclura aussi les deux tribus de Gad et de Ruben et ensuite la demi-tribu de Manassé. Mais ici, ce qui se passe et ce qui est important, ce sur quoi je voudrais attirer l'attention ce matin, c'est en fait ce risque que Moïse décèle dans l'attitude de Gad et de Ruben. Au verset 6, Moïse craint en fait pour la solidarité et l'unité du peuple. Et c'est pour ça qu'il va réagir. Et certains commentateurs oseront dire, il est allé un petit peu vite, Moïse, avant de leur poser des questions. Il leur a dit, vous êtes des rebelles, comme les gens qui sont allés espionner, qui sont revenus, qui ont découragé tout le peuple. Mais Moïse a peur et il craint que le peuple va se disloquer. Il craint que le peuple va se disloquer et il craint que dans le cœur de Gad et de Ruben, il y a une certaine défiance envers les promesses de l'Éternel. Et que tout simplement, eux, ils ont trouvé leur territoire ici, on est bien là, pourquoi est-ce qu'on irait s'embêter à conquérir ailleurs ? Allez-y, on vous le laisse. Mais rapidement, ce dialogue aboutit au fait que les deux tribus de Gad et de Ruben vont s'engager vis-à-vis de Moïse et vis-à-vis de tous les responsables d'Israël pour dire « Non, non, ça ne fait rien, donne-nous le territoire qui est là, mais nous, on ira avec le reste du peuple d'Israël et on combattra avec lui jusqu'à ce que tous nos frères et toutes les tribus aient hérité de ce que le Seigneur leur a promis. Nous nous engageons à être solidaires de nos frères et sœurs. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début du livre de Josué, on apprend au verset 4 qu'effectivement, les gens de Gad et de Ruben, ils sont levés, ils sont armés, puis ils sont allés et ils sont associés à tous les autres Israélites pour conquérir le territoire. Et à la fin du livre de Josué, lorsque Josué parle à tout le peuple, il est dit à un moment, alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé et il leur dit, « Vous avez observé tout ce que Moïse, serviteur du Seigneur, vous a ordonné et vous m'avez écouté en tout ce que je vous ai ordonné. Pendant bien des jours, jusqu'à ce jour, vous n'avez pas abandonné vos frères et vous avez observé scrupuleusement le commandement du Seigneur votre Dieu. Maintenant, que le Seigneur votre Dieu a accordé le repos à vos frères, comme il leur avait dit, retournez à vos tentes, dans le pays qui est votre propriété, celui que Moïse, serviteur du Seigneur, vous a donné en Transjordanie. » Ils ont tenu parole. Et Josué, comme Moïse, à la fin, reconnaît que cette solidarité qu'il y a eu entre toutes les tribus a été une belle démonstration de l'unité du peuple de Dieu et de cette fidélité que les différentes tribus devaient avoir les unes envers les autres. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'au moment où ces deux tribus retournent chez elles et vont traverser le Jourdain, elles décident là de bâtir un autel à l'Éternel. Et tout d'un coup, les autres tribus disent « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train de construire votre propre lieu de culte. Nous devrions avoir un seul lieu de culte. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et là, les deux tribus de Gad et de Ruben disent « Mais c'est parce que nous avions peur que lorsque nous, on allait retraverser le Jourdain, vous, les autres, alliez un jour dire à nos enfants « Vous ne faites pas partie du peuple d'Israël. » Et ils disent, nous, notre but, ce n'était pas d'avoir un lieu de culte différent du vôtre. C'était de marquer et de témoigner du fait que nous faisons partie aussi du peuple d'Israël, même si nous vivons de l'autre côté du Jourdain. Et ainsi, on découvre qu'en Israël, à un moment ou à un autre, c'est que cette solidarité entre les tribus était quelque chose qu'il fallait absolument maintenir parce que c'était un seul peuple de Dieu. Et certainement, une des plus grandes malédictions qui va se passer au peuple d'Israël, ça va être la dislocation des deux royaumes. Et il y aura deux tribus qui partiront et qui créeront un royaume, et puis il y aura 10 tribus qui partiront de l'autre côté et qui créeront un royaume. Et pendant toute leur histoire, ça va être source de querelles, de discordes et même de guerres intestines en Israël. Et le peuple d'Israël va être affaibli, énormément affaibli, à cause de cela. Mais j'arrête là sur cette histoire des deux tribus. Mais ce que je voulais faire, c'était simplement utiliser cela pour renvoyer à quelque chose qui me paraît extrêmement important dans le Nouveau Testament, c'est que l'Église que nous formons est plus que simplement le rassemblement d'individus qui se sont convertis à Jésus-Christ et qui ont leur propre histoire. Il y a une réalité dans l'Église que le Seigneur veut qui dépasse le fait que nous soyons tous de la même culture, du même arrière-plan, que nous ayons la même langue et que nous ayons la même foi. Dans le Nouveau Testament, l'Église, c'est quelque chose d'absolument magnifique, de très compliqué, mais qui dépasse encore une fois le simple fait que des personnes se soient rassemblées parce qu'elles partagent la même foi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve des expressions où dans le projet de Jésus, déjà lorsqu'il parle à ses disciples, c'est qu'il dit « je vais bâtir mon Église ». Ah bon ? Moi je pensais que tu étais venu pour sauver des personnes. Mais il dit à Pierre « non, je vais bâtir mon Église ». Jésus a déjà dans la tête, avant même qu'il soit mort et ressuscité, qu'il va se construire un peuple. Et il y a une expression intéressante qui est utilisée aussi dans le livre des Actes, lorsqu'il est parlé de l'Église. Il est dit que c'est l'Église que Dieu s'est acquise par son sang. Ainsi donc, sur la croix, Jésus n'a pas simplement sauvé des individus, vous, moi, d'autres peut-être, coussi, coussa. C'est qu'il s'est acquise une Église en mourant sur la croix. Et toute cette dimension communautaire, collective de l'Église est aussi importante dans la tête du Seigneur que le fait que des individus se convertissent et deviennent chrétiens. Alors bien sûr, nous savons que l'Église a une dimension universelle qui transcende le temps. Nous faisons partie de la même Église que l'apôtre Paul il y a des millénaires en arrière. Et nous faisons partie de la même Église que nos frères et sœurs en Chine, en Amérique latine, en Afrique, etc. Et pourtant, ça nous avons de la facilité à le comprendre, mais lorsqu'il faut le mettre en œuvre à l'échelon local où nous sommes, c'est là où les choses se compliquent un petit peu. Parce que à quel point est-ce que nous vivons la réalité de ce que Dieu veut que l'Église soit? Et c'est là où le Nouveau Testament ne nous rend pas toujours la vie facile, parce que dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas un moment, un paragraphe qui dit « l'Église, c'est ça ». Une bonne description bien claire. Dans l'Écriture, on a toute une série d'images qui nous sont données pour parler de l'Église. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que il y a toutes sortes d'images qui renvoient à cette réalité de l'Église en tant que groupe et entité qui est bien au-delà de simplement des individus. La première image qu'on a, c'est naturellement celle du peuple de Dieu. Et on a des textes dans le Nouveau Testament qui nous parlent que l'Église est le peuple de Dieu. Encore une fois, ce n'est pas simplement parce que nous partageons des choses en commun et au même endroit, au même instant, que nous sommes l'Église, c'est parce que ici même, Dieu nous a rassemblés et le mot « Église » est formé autour d'un mot qui signifie « appelé ». Et nous avons été appelés par Dieu pour nous rassembler et être ensemble son peuple. Chers amis, aujourd'hui où notre pays cherche à faire de tous les Français d'abord et avant tout des républicains, et on se pose la question de notre identité, où est notre identité première ? Et c'est une grande question. Nos autorités nous disent, vous devez d'abord être républicain, puis ensuite chrétien. D'abord républicain, puis ensuite agnostique. D'abord républicain, puis ensuite musulman. Et c'est là où ça nous pose un problème. Parce que fondamentalement, notre identité se retrouve dans le fait que nous appartenons au peuple de Dieu, que lui, il en est le chef, le prince et le seigneur, et que c'est lui qui nous a appelés à faire partie de son peuple. Encore une fois, ce n'est pas parce que nous jouons au tarot ensemble ou que nous jouons au boule ou au volleyball ou parce qu'on aime bien manger ensemble ou parce qu'on aime bien chanter ensemble qu'on est rassemblés. On est rassemblés parce qu'on est le peuple de Dieu ici à Prévesin. Prenez aussi cette image du sanctuaire et du temple. L'Église est le sanctuaire et le temple de Dieu, c'est-à-dire le lieu où Dieu se manifeste où ils se retrouvent. Ici, tous ensemble, ce matin, dans notre diversité, nous sommes le lieu où Dieu se manifeste et où Dieu est présent, où Dieu veut être présent et être l'objet de nos louanges et de notre adoration. De façon intéressante aussi dans l'Écriture, il y a un certain nombre de mots qui sont toujours utilisés au pluriel. Toujours. Les saints. Ah, on dit toujours, moi je suis un saint devant l'Éternel, etc. Et tout. Mais dans le Nouveau Testament, les saints, c'est toujours au pluriel. On parle toujours du groupe, de l'ensemble des saints. On parle toujours des croyants. On parle toujours des justes. On parle toujours des disciples. On parle toujours des esclaves du Seigneur. Et quelque part, toutes ces personnes, dans leur collectivité, font partie de ce que Dieu appelle aussi, et Pierre en particulier, la maison de Dieu. Il y a donc cette réalité qui nous dépasse, qui est que lorsque nous sommes rassemblés, encore une fois, nous ne sommes pas une juxtaposition d'individus, mais nous constituons quelque chose de plus grand et de plus glorieux, au point où même l'Église est appelée dans le Nouveau Testament la nouvelle humanité en Jésus-Christ. Vous imaginez, la nouvelle humanité en Jésus-Christ. La nouvelle création. Wow. La nouvelle humanité, lorsque je nous regarde, il y a du boulot. La nouvelle création, moi je me suis toujours dit, c'est pour plus tard. Mais nous sommes les premiers fruits de la nouvelle création en tant qu'Église. Et puis, est-ce qu'il faudrait que je reprenne cette image aussi du corps que nous avons beaucoup étudié dernièrement, où tous ensemble, nous dépassons nos fonctions individuelles pour faire quelque chose d'absolument magnifique et que Paul utilise beaucoup dans cette notion de corps. Alors déjà, il y a tout ce descriptif de ce qu'est l'Église, qui n'est pas simplement une extrapolation de ce que moi je suis moi-même, mais c'est ensemble que nous sommes le corps, la nouvelle création, la communauté, les saints. Ce n'est pas individuellement. Donc il faut que nous essayions d'imaginer comment est-ce qu'on représenterait notre Église. Est-ce qu'on la représenterait comme simplement un point central qui est nos bâtiments et puis on vient tous des quatre coins de l'horizon une fois par semaine, on chante ensemble, on prie ensemble et puis on repart? Ou alors est-ce qu'il y a une réalité et une conscience en nous qui fait que nous sentons que nous appartenons à ce corps, et je ne parle pas de l'association 1905 ou 1901, je parle du corps de Jésus-Christ et de l'Église ici à Prefsaint. Est-ce que nous avons cette conscience? Et je me pose la question parce que lorsqu'on regarde toutes nos activités, toutes nos vies, etc., et tout, on a l'impression que le dimanche matin, on se retrouve là, puis on repart l'après-midi, puis la semaine prochaine, on reviendra, et puis on repart. Mais qu'est-ce qui nous reste dans la tête durant la semaine et dans le cœur? Comment est-ce que nous ressentons et vivons notre Église? Et c'est là où, dans un sens, l'histoire des deux tribus et demi nous interpelle. C'est que comment est-ce que nous vivons notre solidarité les uns envers les autres et comment est-ce que nous la manifestons? Parce que s'il y a une chose qui est intéressante dans l'exemple de Ruben et de Gad, c'est que le reste du peuple ne pouvait pas vraiment conquérir son territoire pour soi-même s'il n'avait pas l'aide des copains. Est-ce que vous êtes conscient que peut-être vous ne pouvez pas progresser dans votre propre vie spirituelle si vous n'avez pas l'aide des copains? Est-ce que vous avez conscience du fait que vous êtes peut-être la clé pour aider quelqu'un à progresser dans sa vie spirituelle et dans sa vie ici, en tant que chrétien, dans l'église du CEP? On n'a certainement pas cette conscience-là, parce que, bon, si je peux te donner un coup de main, je te donnerai un coup de main, quoi. Hein? Mais bon, c'est d'abord entre le Seigneur et toi. Et pourtant, et là je voudrais aborder une autre dimension, et je l'ai déjà dit dans le passé, Le nombre de fois où cette expression « les uns, les autres » est utilisée dans le Nouveau Testament avec différents verbes, c'est absolument extraordinaire. Apparemment, il y aurait 58 fois où cette expression est utilisée dans le Nouveau Testament « les uns, les autres ». Alors l'autre chose qui est fabuleuse avec cette expression dans le Nouveau Testament, c'est que ça ne renvoie pas nécessairement à nos fonctions officielles et nos dons officiels et nos fonctions en tant qu'anciens ou pasteurs, etc. et tout. Ça renvoie à cette vie qu'il doit y avoir dans l'Église, qui quelque part ne peut presque pas se codifier ou se formaliser, mais qui doit exister entre les différents membres de l'Église. Et les expressions, c'est comme « servez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, soumettez-vous les uns les autres ». Tout ça ne se codifie pas dans des fonctions officielles, mais c'est la vie telle que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean et tous les auteurs du Nouveau Testament décrivent la vie de l'Église. C'est que c'est caractérisé par ces liens qui doivent exister entre les différents membres sous cette petite expression « les uns les autres ». Nous sommes appelés à être liés les uns aux autres, connectés les uns aux autres. C'est pour ça que l'image du corps est utilisée. Il est dit dans l'Épître aux Romains, nous faisons tous partie les uns des autres. Wow, qu'est-ce que ça veut dire ça, nous faisons tous partie les uns des autres. Moi dans le mariage je veux bien, mais avec vous, ça veut dire quoi? Nous faisons partie les uns des autres. Nous sommes redevables les uns envers les autres. Je suis appelé à me soumettre à vous. Je suis appelé à confesser mes péchés envers vous. Quelque part, je suis redevable à cette communauté et à ce peuple. Nous sommes appelés à nous édifier les uns les autres. Et nous l'avons souvent utilisé, ce verset dernièrement de Éphésiens 4, où il est parlé du corps, et c'est par lui, par le Christ, que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Est-ce que vous avez l'impression, et moi c'est la question que j'aimerais vous poser une fois de façon anonyme, mais combien d'entre vous avez l'impression que vous avez grandi dans cette église au cours des 12 derniers mois? Grandi spirituellement? Est-ce que nous avons l'impression que notre église est en train de grandir, de se fortifier? Je ne parle pas du budget. Roland, excuse-moi. Je ne parle pas de nos locaux. Mais vous-même, individuellement, est-ce que vous avez l'impression que, ayant vécu dans cette communauté au cours des derniers mois, vous avez senti par l'aide de vos frères et sœurs, quelle que soit la façon, que ce soit par un repas, que ce soit par l'enseignement, que ce soit un moment de prière, que vous avez été fortifié et que vous grandissez dans le Seigneur? Je redoute d'entendre les réponses. Les uns les autres aussi, c'est ce qui fonde notre unité dans l'Église. Nous sommes appelés aussi à nous exhorter, là aussi on prend toujours des pincettes, mais l'Épître aux Hébreux, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. Je ne me souviens plus du jour où je suis allé voir quelqu'un dans l'église en disant, je t'encourage vraiment, tu sais, vraiment tu fais ça très très bien. Mais là, non, on dit, le Seigneur lui dira, on priera pour toi. Mais combien de fois est-ce que nous le mettons en pratique? Ainsi donc, il semblerait que d'après ce que nous dit le Nouveau Testament, c'est que nous sommes appelés à vivre une dynamique qui dépasse simplement nos vies individuelles. Comme le peuple d'Israël ne pouvait pas progresser dans sa conquête, ce n'était pas simplement « j'ouvre les portes et puis comme à un concert et tout le monde fonce dedans et prend sa place, etc. et tout, et trouve les meilleurs coins », c'est tous ensemble, il fallait y aller et jusqu'au bout on persévérait. Et on ne baissait pas les armes tant que la dernière tribu n'était pas installée et en paix dans son territoire. Gad et Ruben, je ne sais pas combien de temps ça leur a pris, en se disant, punaise, ça fait long qu'on est là avec eux. Hein. Nous on est déjà bien, toutes les familles sont installées, moi j'ai envie de retourner où je suis. Non, ils sont restés jusqu'au bout. Ils sont restés jusqu'au bout. Et ça veut dire quoi pour certains d'entre nous d'être encore en train de conquérir notre territoire? Il y en a certains qui sont plus jeunes dans la foi que d'autres. Il y en a certains qui sont en butte à certaines choses dans leur propre vie. Il y en a d'autres qui font face à certaines circonstances qui les usent et remettent en question. Mais est-ce que nous sommes solidaires les uns des autres dans ces cas-là pour nous aider à tenir et à aller de l'avant encore? Alors bien sûr, nous ne sommes pas tous prêts à nous ouvrir et à discuter avec tout le monde. Mais pourtant, le Seigneur nous dit, c'est une des promesses que je vous fais, c'est que vous pouvez vivre cette communion parce que mon esprit vous unit et parce que mon esprit vous anime. Et c'est une dimension de la vie communautaire que vous pouvez vivre. Et puis une des dernières choses qu'il faut nous souvenir aussi, c'est que nous avons été appelés collectivement à proclamer la parole de Dieu et la bonne nouvelle. Lorsque Jésus s'adresse à ses disciples en Matthieu 28, il parle à tous ses disciples ensemble et leur dit, vous, là, les douze et puis tous les autres, allez et allez ensemble. Nous avons une responsabilité aussi vis-à-vis du monde qui nous entoure en tant qu'Église, pas simplement individuellement dans nos relations avec nos voisins et au travail et les gens que nous rencontrons à la boulangerie ou sur le marché. Mais collectivement, nous existons aussi aujourd'hui au XXIe siècle pour être le porte-parole du Seigneur et de sa bonne nouvelle autour de nous. Et c'est là où nous avons à réfléchir et à travailler ensemble. Qui m'amène donc maintenant à cette dernière partie qui est « Et alors, comment est-ce qu'on fait ça ?» Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? La première des choses, je vous rappelle cette image, j'ai peut-être raison, peut-être tort, mais est-ce que nous venons ici le dimanche matin et nous repartons ? Boum. Qu'est-ce qui nous reste dans le cœur de la vie de l'Église le dimanche soir, le lundi matin ? Jusqu'à la semaine d'après. Et comment est-ce que nous nous nourrissons de cette Église et comment est-ce que nous nourrissons aussi les autres? Mais j'aimerais simplement attirer l'attention sur ce verset que vous connaissez bien et qui a souvent été utilisé dans Actes 2 lorsqu'il est parlé des chrétiens, où il est dit qu'ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Ils étaient assidus, ils persévéraient, semble-t-il, d'après ce qu'on sait, ils se regroupaient pour le faire. Et ils se regroupaient autour de l'enseignement, ils se regroupaient dans la communion fraternelle, ils se regroupaient autour de la Sainte Cène et ils se regroupaient dans la prière. Il y a beaucoup de discussions à savoir est-ce que quelqu'un peut prendre la Sainte Cène tout seul ? Est-ce qu'on peut baptiser ou est-ce que quelqu'un peut se baptiser lui-même ? Il n'y a pas de réponse définitive toujours à tout cela. Mais semble-t-il, la pratique et la façon dont l'Écriture nous en parle, c'est que ce sont des choses qui se font dans le cadre de l'Église. Moi, j'ai du mal à penser que je puisse prendre la Sainte Cène sans la prendre avec des frères et sœurs. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que l'Écriture nous l'interdirait, puisqu'en fait, c'est une commémoration aussi. Mais c'est une commémoration à laquelle nous sommes appelés collectivement. Et le baptême aussi, nous le pratiquons en public. Si quelqu'un venait nous voir en disant « Tiens, viens chez moi à la maison, dans ma baignoire », enfin, en tant qu'ancien, on se dirait peut-être « Non, tu sais quoi, on a plus l'habitude ». Et ça participe de la vie de l'Église et ça participe aussi de ce témoignage que nous devons avoir. Mais j'en viens à la prière et j'en viens à l'enseignement. On pourrait parler longuement aussi de la communion fraternelle. Mais en préparant ce message, une des choses qui m'a frappé, le Notre Père est au pluriel. On en a deux versions, et deux versions au pluriel. Est-ce que Jésus avait dans la tête que la prière était quelque chose qui était d'abord et avant tout communautaire? Ah, bien sûr, il met en garde contre ceux qui vont prier devant tout le monde, qui se font voir, etc. Et tout. Il dit non, mieux vaut prier dans l'armoire de ta chambre. Mais là, il est en train de répondre à ceux qui se font mousser, qui se font voir. Mais par ailleurs, lorsque les disciples lui disent « apprends-nous à prier », Jésus, il donne une prière qui est au pluriel, notre Père qui es aux cieux. Pardonne-nous nos offenses, délivre-nous du mal. Et je me rappelle, moi, il y a quelques mois en arrière, je repriais, mais en transformant ces pronoms personnels en « délivre-moi du mal ». Et je me l'appropriais. Mais il y a d'autres dimensions de la prière qui nous sont données aussi, où il nous est dit, lorsque deux ou trois s'associent pour demander quelque chose en mon nom, je leur donnerai. Il y a un moment où Dieu est dit, moi je veux bien honorer ta prière, mais où sont les autres ? Où sont les autres ? Et c'est là où j'aimerais aller encore, de la même façon que lorsque, pour l'enseignement, beaucoup d'entre vous, vous venez ici le dimanche matin, où vous lisez des choses qui vous sont données par d'autres, etc. Et tout. Il y a un moment ou un autre où nous devons nous rassembler en tant que communauté, parce que c'est là aussi que se vit toute la dimension de notre vie spirituelle, lorsque nous sommes rassemblés. Et moi, je vais vous dire, les deux, trois dernières réunions de prière quand Pierre nous a conduites et tout, je trouve qu'il y a une dimension à la prière qui dépasse ce que moi je pourrais faire lorsque je prie tout seul. Non pas que des choses extraordinaires se passent, mais il y a une association dans et par l'esprit, dans la louange, dans la glorification, dans l'intercession, qui n'est pas une dimension de ce que je vis lorsque je prie tout seul. C'est nécessaire, c'est utile. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque nous avons étudié ensemble les Écritures, etc., et tout, et dans nos discussions, nous nous sommes enrichis. Moi, je suis reparti avec des perspectives et des dimensions sur certaines vérités bibliques que je n'aurais pas nécessairement trouvées tout seul. Et là, il y a toute une richesse possible dans la vie de l'Église, lorsque nous nous rassemblons pour le faire. Et de là, j'aimerais extrapoler et puis vous laisser aussi toutes les autres choses qui nous sont dites dans l'Écriture par rapport à nous encourager les uns les autres. Nous avons du mal à parler dans notre Église et à nous dire les choses. On a du mal, on n'a pas cette culture. Sous prétexte d'humilité, on ne dit rien. Et pourtant, nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres. Du moins, c'est ce que nous dit le Nouveau Testament. À exercer l'hospitalité les uns envers les autres. À intercéder les uns avec les autres. Sans oublier, naturellement, la collaboration de nos activités dans l'Église. N'oublions jamais que nous avons un don qui nous a été donné pour qu'il soit articulé avec les autres dons. On n'a pas eu un don qui nous a été donné pour « vas-y, fais ton truc là-bas dans ton coin, et puis après on verra ». C'est une pièce qui doit se connecter à une autre pièce. Et cette pièce ne fonctionne pas si elle n'est pas connectée à l'autre pièce. Ce n'est pas moi. C'est le Nouveau Testament. Chers amis, la vie de l'Église, et je m'arrêterai là, c'est plus que nos relations et nos affinités. Ok ? C'est plus parce qu'on aime bien chanter ensemble, parce qu'on parle la même langue, parce qu'on est tous de préfets, machin, au pays de Jex, ou parce qu'on a le même âge, parce qu'on est de la même famille. C'est plus que cela. Et il y a trois choses que j'aimerais vous laisser, qu'elles vous marquent, qu'elles vous restent un petit peu dans la tête, c'est que nous sommes ici et avant tout parce que nous sommes le peuple de Dieu. Ok ? Qu'on le veuille ou non. On est bon, on n'est pas bon, on est comme Israël, à l'apogée de sa gloire, ou Israël lorsqu'il était piétiné. Ça ne fait rien, on est le peuple de Dieu ici. Et nous avons quelque chose à lui rendre dans notre culte, et dans notre hommage, et dans notre louange. La deuxième chose, c'est que nous sommes rassemblés, nous sommes une association, et nous sommes une église ici, parce que nous sommes appelés à œuvrer au projet de Dieu au milieu de nous et dans la vie de chacun d'entre nous. Si nous n'acceptons pas cela, nous ne répondons pas à un appel du Seigneur pour notre vie communautaire. Nous sommes là à bâtir des vies, à nous aider les uns les autres à conquérir ce qui, dans notre vie, est encore en friche. Ou peut-être parce que nous avons dû battre en retraite pour une raison ou une autre. Et puis nous sommes l'Église ici parce que nous avons une vocation qui est commune, qui est de proclamer sa parole. Pas parce que quelques frères et sœurs ont envie d'être des évangélistes, pas parce que vous avez une idée sur comment il faudrait proclamer la parole de Dieu, etc. et tout, mais nous avons une responsabilité commune et un appel commun à proclamer la bonne nouvelle. Chers amis, l'exemple de Gad et de Ruben, en tout cas moi, m'interpelle sur cette solidarité que nous devons avoir les uns avec les autres. Ce n'est pas simplement « ça serait bien si », c'est constitutif de ce que Dieu veut que son Église et son Église locale soient. Et ça sera une des façons par lesquelles nous allons pouvoir saisir aussi ces promesses dont nous avons parlé avant. Nous ne pouvons pas chacun de notre côté aller saisir les promesses du Seigneur. La vie abondante n'est pas simplement une vie individualiste isolée. La vie abondante, c'est aussi une vie qui est nourrie par nos relations les uns avec les autres, notre communion fraternelle. Nous soutenir et nous encourager les uns les autres, c'est lorsque nous pouvons nous associer dans la prière. Dire amen à la prière d'un frère ou d'une sœur parce que nous sommes en train de prier, de lutter pour la même chose et parce que nous sommes unis par le Saint-Esprit au même endroit. C'est ça la vie de l'Église à laquelle le Seigneur nous appelle. Alors je vous invite à garder encore cette dimension de toute la conquête du territoire de Canaan, mais de savoir aussi que ça a encore une plus grande dimension, une plus grande signification dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et vous n'êtes pas là par hasard, et vous n'êtes pas des gens moins capables que d'autres. La parole nous interdit de penser comme cela. Si le Seigneur vous a appelé et que vous êtes là, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous soyez éduqué, pas éduqué, je ne sais pas quels sont les... Que vous soyez esclave ou grec, juif, circoncis, incirconcis. Vous êtes le peuple de Dieu. Et le projet de Dieu aujourd'hui, c'est qu'il y ait cette église à Prêves-Saint et que là se manifeste sa vie. Et que là, ensemble, nous nous serrions les coudes pour conquérir le territoire que le Seigneur présente devant nous. Je vous invite à quelques instants de prière silencieuse et puis je terminerai. Seigneur, notre Dieu, nous vivons dans un monde, Seigneur, où il est très facile de vivre de façon isolée et individuelle. Nous travaillons d'un côté, nous sommes à l'église ici, notre famille est ailleurs, nos amis sont encore ailleurs, et puis on est sur Internet dans d'autres communautés. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons entendre ta parole et savoir ici, Seigneur, que nous ne sommes pas simplement rassemblés parce que nous sommes des évangéliques du 21e siècle qui aiment chanter et qui croient la même chose. Mais Seigneur, nous voulons croire et saisir cette promesse que même si nous sommes petits, même si parfois nous nous sentons faibles, nous sommes ton peuple. Seigneur, je voudrais te remercier encore pour tout ce que tu donnes dans ta parole qui nous fait contempler la beauté de ce peuple, la beauté de cette maisonnée, la beauté de ce corps, Seigneur, qui bien articulé avance, progresse, grandit. Nous contemplons, Seigneur, encore ta générosité, ta bonté, qui a déversé, qui nous a donné tout ce dont nous avons besoin dans cette Église et même au-delà. Alors ce matin, Seigneur, nous te disons un grand merci pour cela, mais en même temps, nous voulons oser, comme Gad et Ruben, Seigneur, de dire, nous nous serrons les coudes jusqu'à ce que tous ensemble, nous ayons conquis, Seigneur, le territoire que tu nous donnes à conquérir. Et si certains boitent à certains moments, si certains sont fatigués, que nous puissions nous relever les uns les autres et aller de l'avant. C'est entre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ta bonté, merci pour ton esprit qui nous unit en toi. Au nom de Jésus, amen.
Bonjour à chacune et chacun. Merci pour ce culte de ce matin, pour ce qui nous a été apporté, tant dans la louange que dans le message. C'est vraiment important. Je partage avec vous le programme de la semaine. Demain soir, le conseil se réunit avec deux commissions. Tout d'abord, la commission entraide et relations d'aide à 19h30, et puis la commission mission et évangélisation à 21h. Mardi soir, l'étude biblique. Alors, John nous a bien développé le sujet, nous a bien préparé pour participer à cette rencontre. C'est vrai que la vie de l'Église, c'est plus, bien plus que ce que l'on peut vivre ensemble le dimanche. Dieu a un plan pour chacun et il désire aussi accomplir ce plan parmi nous avec différents moyens. Le culte en est un, la communion fraternelle en est un autre, les réunions de semaine en sont encore un autre. On vous invite vraiment à participer mardi. Mardi, ce sera sur le thème de l'adoption. Au bénéfice du salut en Christ, on est adopté. On a le statut de fils de Dieu, de fils héritier. Et c'est ce sujet qui sera développé mardi. Ben moi, je vous invite à venir participer. Jeudi, la pastorale se rencontre. Jeudi soir, il y a encore la chorale. La chorale qui prépare aussi le culte en commun. Qu'on va aussi peaufiner jeudi soir avec la pastorale. Merci de prier pour cela, c'est important, les relations entre églises, au niveau de l'église universelle, c'est important de reconnaître les autres, de les connaître bien sûr, mais aussi de vivre des choses ensemble. Samedi, le groupe de jeunes, dimanche prochain le culte à 10h30 ici. Sinon, les annonces concernant les activités au-delà de la semaine qui vient. Donc le 15 mars, on a le culte en commun. Voilà, donc le lieu déjà, c'est à Échenevé, donc dans la salle communale d'Échenevé. Donc le 15 mars, il n'y aura pas de culte ici. D'accord, donc on se retrouve tous à Échenevé à 10h. Donc le culte est à 10h. Il y a encore besoin, si quelqu'un voulait participer pour l'école du dimanche, il y a déjà des personnes d'autres églises qui se sont proposées, mais c'est toujours intéressant de faire des choses entre chrétiens d'églises différentes. Si quelqu'un voulait encore participer, n'hésitez pas à me le dire. Il y a encore de la place. Le 15 mars, c'est vrai qu'au culte en commun de ces dernières années, on avait toujours l'habitude d'avoir un repas canadien. Cette année, on change un petit peu. Il y aura un apéritif qui va suivre le culte, pas de repas ensemble. Le but était simplement qu'on puisse être plus nombreux à partager ce temps ensemble après le culte. L'an passé, on était relativement peu nombreux à manger ensemble. Donc on s'est dit, ben tiens, pour une fois, on va faire un apéritif ensemble, de façon à ce que tous ceux qui participent au culte vivent ce temps ensemble de communion après le culte. Ensuite, les annonces pour après, le 21 et 22 mars. J'ai mis des petits flyers au fond de la salle, là. C'est donc l'église Mennonite qui organise un cours biblique, donc à Saint-Genis, sur la vie et l'œuvre de Martin Luther King. Et c'est donc organisé, c'est fait par le pasteur Serge Mola. Donc c'est le samedi déjà à 16h, le samedi soir et le culte aussi qui seront sur ce thème. Donc prenez des petits flyers de cette taille, il y en a un petit peu plus grand derrière le panneau, c'est peut-être plus facile à lire. Sinon, les 28 et 29 mars, il y a le fameux week-end au féminin qui est organisé donc au Binnenberg. C'est donc un week-end pour les femmes, vous l'avez compris. Si une dame veut participer, je vous demande de contacter Rebecca, qui va centraliser un petit peu, qui peut vous donner les bonnes informations. Ensuite, le 9 et 10 mai, c'est déjà un petit peu plus loin, mais comme c'est aussi sur un samedi, c'est important de réserver dans l'agenda. Les 9 et 10 mai, on aura quelques rencontres avec Étienne Lermeneau, Donc ici, Étienne Lermenot est président du CNEF. Et puis on aura quelques rencontres sur le thème évangélisation et liberté. Donc on vous invite déjà à réserver ce week-end, samedi 9 et dimanche 10 mai. Sinon, je vais laisser la place à Anne-Marie, qui a une annonce concernant Porte Ouverte.
Alors, c'est dans le cadre effectivement de Porte Ouverte, il y aura une journée de femme à femme qui va être organisée. Donc, nous invitons toutes les dames qui s'intéressent le vendredi soir 13 mars. Ici, rendez-vous à 18h30 pour aller à l'église évangélique du Réveil à Genève. C'est une rencontre avec une oratrice, une égyptienne, qui va nous parler de ce qui se passe en ce moment en Haute-Égypte. Voilà, donc avec une collecte en faveur des projets en Égypte. Donc, ce n'est pas réservé qu'au groupe de dames, c'est pour ça qu'on fait l'annonce pour toutes les dames qui veulent. On se regroupera, on descendra ensemble avec un minimum de voitures pour se garer au parking de l'école d'ingénieurs. Hein, ouais. Voilà.
Sinon, on vous invite à prier cette semaine. Donc, comme on le fait chaque semaine, on vous invite à prier pour l'Éthiopie. Alors, l'Éthiopie, où est-ce qu'elle est ?
Elle est ici.
En Afrique de l'Est, on en parle peu. Et pourtant, c'est un pays qui a besoin de nos prières. Au niveau de la persécution, c'est un pays dans lequel la persécution est bien présente. Dans ce pays, il y a 60% de chrétiens. Mais attention, toutes confessions confondues. Notamment, le grand nombre de chrétiens et de confessions orthodoxes d'Éthiopie. Il y a aussi 34% de musulmans dans ce pays. Mais il y a aussi un gouvernement d'idéologie communiste. Et donc, ces différents éléments, à la fois le gouvernement d'idéologie communiste, à la fois une église chrétienne officielle qui est peu favorable au développement du protestantisme et surtout au développement de la relation personnelle avec Dieu, font que c'est un pays qui a besoin de nos prières. Voilà, on vous le remet. Sinon, je partage avec vous un dernier verset. Je vous invite à vous lever pour terminer notre culte. Le psaume 13, verset 6. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Bonne semaine, bon dimanche.